Qu'est-ce qui vous fait marcher dans la vie ?
Moi, c'est d'abord la recherche d'une certaine justice sociale qui me motive, qui me fait marcher. Et vous trouverez ça un peu drôle, mais mon nom, justement, signifie savoir marcher dans la vie. Donc, ma motivation première, c'est de faire en sorte de contribuer, en tout cas, à l'existence d'une certaine justice sociale, d'abord dans mon pays d'accueil également, ainsi que par extension dans le monde.
Donc vous ne pouviez pas refuser ma formule d'interview en marchant ?
Non, aucunement, puisque elle s'inscrit dans la droite ligne ou dans la droite signification, en tout cas, de mon nom.
Bonjour, nous accompagnons dans la rue Kofiniazozo, juriste, membre du collectif Nwebeke et membre de la coordination Togo Debout. Interview réalisée avec la complicité de l'association Survie 44. Vous avez poursuivi des études de droit par hasard, par vocation, par environnement familial ?
Non, le droit c'est plus par, je dirais aujourd'hui, je me convainc un peu plus que c'est par vocation. Tout simplement parce que depuis tout petit, justement, dans la recherche de cette justice sociale-là, c'est-à-dire le fait d'éviter que l'injustice gangrène la société, m'a donc poussé très tôt vers le choix de cette matière qu'est le droit.
Vous êtes membre d'une association qui s'appelle Nwebeke. Pouvez-vous nous la présenter ?
Alors Nwebeke, c'est un mouvement citoyen, une association donc de loi 1901, comme on peut en connaître, qui se donne pour but ou qui a pour objectif statutaire de contribuer à l'éveil des consciences au niveau de la population togolaise et dans la diaspora togolaise. Alors, que fait Nwebeke concrètement ? Eh bien, on s'est donné ou assigné pour devoir de vulgariser la constitution togolaise, ce qui nous permet de l'omer à Saint-Cassé, de sensibiliser nos compatriotes sur ce que contient cette constitution, mais d'abord en prenant soin de la définir le rôle ou le but de l'érection d'une constitution. À quoi sert une constitution ? Qu'est-ce que c'est ? Et à partir de là, qu'est-ce qu'elle peut contenir ? Et quel est le but d'une constitution pour un pays ? Voilà un peu l'angle sous lequel Nwebeke travaille. Et aujourd'hui, nous avons des clubs implantés un peu partout, de Lomé à Saint-Cassé, dans la diaspora, notamment au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, en France, aux USA, en Allemagne, au Canada. On l'a créé en 2015. Aujourd'hui, on tend vers un résultat probant, mais malheureusement, on a été ou on est heurté donc à l'arrestation de certains de nos membres. Voilà en somme nos briquets.
Donc vous dérangez si on vous arrête ?
Oui, pour le régime au pouvoir, il considère que, c'est-à-dire qu'on est ou qu'on constitue une nébuleuse, parce que, vous savez, la dictature surfe le plus souvent sur l'ignorance des populations. Et donc, aujourd'hui, Nwebeke s'est inscrit dans un travail de faire prendre conscience aux uns aux autres sur leurs devoirs et leurs droits. Ça dérange.
Donc ça, c'est un point. Il y a aussi l'idée de contribuer à la modification de la Constitution. Je peux prendre un exemple, la réduction du nombre de mandats présidentiels.
Exactement. C'est d'ailleurs l'un des points focaux sur lesquels Nwebeke travaille, puisque la vulgarisation de la Constitution passe par son détricotage. C'est-à-dire qu'il faut arriver à faire comprendre aux uns aux autres, mais le Togo, au fond, a quelle Constitution ? Quel est son contenu ? Que dit la Constitution, par exemple, sur la limitation des mandats ? Et on se rend très vite compte que cette Constitution, unanimement votée ou votée par voie référendaire en 92, à près de 97,4%, eh bien, consacrait du moins une limitation des mandats à deux, avec l'impossibilité pour chaque citoyen togolais d'en aller au-delà. Alors, on a remarqué que le père de l'actuel président du Togo a naturellement pris soin, à travers une assemblée chevillée, donc au corps ou à son parti en tout cas, a pris soin d'enlever cette impossibilité ou la mention relative à l'impossibilité pour tout citoyen d'aller au-delà de deux mandats, de sorte à pouvoir se pérenniser ou pérenniser en tout cas son règne. Donc aujourd'hui, l'enjeu est de faire en sorte que les Togolaises et Togolais ayant connaissance de ces faits-là, eh bien, soit outillé et arrive à défendre le fait que ce point qui a été insidieusement émasculé de notre Constitution, que ce point puisse être restauré. C'est donc là tout l'enjeu et tout l'intérêt des manifestations qui ont jalonné le Togo et à Lomé et dans la diaspora.
Mais rien n'interdit dans la Constitution qu'un fils succède à son père.
Absolument, c'est d'ailleurs le droit de tout un chacun. Mais pour autant, cette succession doit se faire dans le strict respect de la dite Constitution. Et aujourd'hui, vous allez voir que la loi, par définition, elle est censée être impersonnelle. Donc ça veut dire que, qu'on soit fils d'eux ou pas, là n'est pas le problème. Mais la difficulté, s'agissant du cas de M. Faure Gnassingbé, c'est qu'au-delà d'être le fils donc de M. Gnassingbé père, il a commis ce qu'on appelle un coup d'État constitutionnel, un coup d'État institutionnel, dans la nuit du 5 au 6 février.
2005.
Donc, il n'est pas arrivé à travers les urnes. Or, vous serez d'accord avec moi que même quand on est fils d'eux, il faut arriver au pouvoir en gagnant l'expression ou en ayant l'onction, en tout cas, de la souveraineté populaire, ce qui n'est pas son cas. Donc, cette remise en cause, ce coup d'État qui, au demeurant, est imprescriptible, a été réitéré donc en 2010, puis en 2015. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il a lui-même donc construit son illégitimité et fait en sorte que le peuple togolais ne veut en tout cas plus le voir au pouvoir.
Vous êtes intervenu dans le cadre d'une rencontre-débat organisée par l'association Survie. Le thème, c'était comment organiser une résistance ou quelles sont les résistances.
Absolument, absolument. C'est d'arriver à poser les jalons, ou en tout cas à éclairer les uns les autres sur les différentes facettes que peuvent prendre une lutte et donc les comportements, les attitudes à adopter. Et parallèlement, à voir comment orchestrer justement cette résistance-là de sorte à ne pas finir avec des pertes en vies humaines importantes. Cela ne veut pas dire pour autant que c'est une résistance armée, parce que même les résistances pacifiques viennent à bout donc des systèmes dictatoriaux ou des systèmes militarisés. Et donc, voilà pourquoi nous faisons en tout cas en sorte à obéir à cette citation de Françoise Giroud qui dit que les révolutions par les armes, on peut les mater, mais celles qui naissent et se propagent par l'esprit sont insaisissables. Donc nous, aujourd'hui, l'enjeu pour nous, c'est de faire en sorte qu'il y ait cette résistance qui se fasse, mais qu'elle naisse par l'esprit et qu'elle se propage ensuite.
Ça prend du temps.
Absolument, absolument. C'est le facteur temps qui en est, on va dire, le talon d'Achille, puisque les systèmes militarisés ou autocratiques cherchent toujours à avoir les populations par l'usure. Mais une fois qu'on a connaissance qu'il va falloir attendre ou alors qu'il va falloir patienter parce que sans grands moyens économiques, il faut organiser la résistance et donc que cela va prendre du temps. Une fois qu'on a parfaite connaissance de ce facteur-là, il faut maintenant outiller ou du moins se cheviller, avoir la patience pour soi et puis ensuite déployer tous les moyens que l'on a parce que quoi qu'on en dise, certains systèmes se désintègrent le plus rapidement ou plus vite qu'on ne le pense.
Il ne faut pas attendre le décès du dictateur.
Non, parce que, vous savez, les dictateurs arrivent à se maintenir par moult moyens, puisqu'ils ont des émoluments, du moins des moyens financiers, qui leur permettent de se faire soigner dans les grands hôpitaux. Donc s'il faille attendre qu'ils meurent de leur propre mort, naturellement, on en a pour des siècles. Voilà pourquoi, aujourd'hui, la force doit rester au peuple, et en particulier à la jeunesse, puisqu'aujourd'hui, la population africaine est majoritairement composée de la jeunesse et des femmes, de sorte à ce que nous puissions mettre en place ou construire un avenir, d'abord pour nous-mêmes, ensuite pour nos progénitures. Et par conséquent, on n'a pas besoin d'attendre que les dictateurs meurent.
Que vous avez déjà lu la Constitution française ?
Quelques extraits ? Non.
Non ?
Des extraits ?
Vous n'avez jamais eu cette curiosité ?
Non.
C'est une perte de temps ?
Oh, non, mais enfin, j'ai jamais eu l'occasion de... Bon, on nous a jamais vraiment appris à la lire aussi. Enfin, on nous a pas dit qu'il faut lire la Constitution, nous, on sait juste que ça existe, quoi, c'est tout.
Pourquoi je pose cette question, Kofi ?
Parce que, par exemple... Au Togo, on assiste... Au Togo, c'est un pays qui, vous avez sûrement entendu déjà parler. Et donc, il y a une violation systématique de la Constitution. Et nous avons une association qui se donne pour but, par exemple, eh bien, d'expliquer, de définir d'abord ce que c'est que la Constitution aux populations, puis ensuite de faire connaître les droits et devoirs à chaque, quasiment à chaque citoyen. Et donc, de leur montrer eh bien, si la gouvernance, c'est-à-dire il faudrait qu'ils arrivent, la population ou qu'elles arrivent, à décider par elles-mêmes, si eh bien, la Constitution est respectée par ceux ou celles qui incarnent les institutions ou non. C'est un peu, en Sibylline, la question qu'on vous a posée tout à l'heure, à savoir si vous connaissiez la Constitution et si vous jugez, par ailleurs, qu'elle est respectée ou non. Donc c'est de voir si elle n'est pas respectée, alors pourquoi elle n'est pas respectée et ce qui se passe dans ce pays, est-ce acceptable pour un être humain ? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait accepter la désacralisation progressive de la vie humaine. Est-ce que vous accepterez qu'on tue à loisir, qu'on tue en fonction des humeurs, ou qu'on tue pour perpétuer un pouvoir, c'est-à-dire aujourd'hui ? Est-ce que vous accepterez que le fils, par exemple, de Charles de Gaulle soit toujours président en France ? Qu'il n'y ait donc que des élections tripatouillées, qu'il n'y ait donc que des élections où on ne sait pas, c'est-à-dire vous votez pour quelqu'un et finalement c'est le fils de Charles de Gaulle qui se décide à conserver le pouvoir. Est-ce que vous seriez éventuellement prête à consentir ou à accepter l'idée là que le fils de Charles de Gaulle soit toujours président en France ?
Donc c'est... Non. Ah non, non, pas du tout. Mais quand vous parlez de les élections un petit peu truquées, etc. Enfin, je pense que c'est ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Je veux dire, on nous donne un choix d'électeur qui n'est pas vraiment choisi au final, quoi. Donc, enfin, ça rejoint l'idée de ce que vous dites. Enfin, je ne sais pas trop.
Oui, au Togo, pour vous faire la petite histoire, par exemple, en 2005, on a vu, vous pouvez retrouver ça sur YouTube, des militaires courir avec à la Usain Bolt. Vous connaissez Usain Bolt. Voilà. Donc, des militaires à la Usain Bolt couraient avec des urnes. Et donc, ça veut dire finalement que... Et ça s'est perpétué hein, en 2005, 2010, 2015. Et donc, ça veut dire finalement qu'on dit « allez voter comme des moutons », mais au final, votre vote n'est pas respecté. Ou alors, les listes électorales sont tripatouillées à telle enseigne que vous pouvez retrouver un enfant de 10 ans qui vote parce qu'un chef aurait décidé qu'il aurait la majorité. Donc voilà les conditions, par exemple, dans lesquelles les Togolais sont amenés à aller aux urnes et les conditions dans lesquelles le président actuel leur propose de voter par voie référendaire, de dire « bon, si vous êtes d'accord, je peux rester encore pour 30 ans. Si vous n'êtes pas d'accord, ben j'y reste tout de même. » Donc, transposer en France, c'est pour ça qu'on essaie de voir un peu, de recueillir les avis et d'informer parallèlement sur ce qui pourrait ou se passe ailleurs et soutenu malheureusement par des gouvernants ou des gouvernements français et ce qui se perpétue. Voilà le but, en fait.
Mais enfin, j'ai pas trop compris votre réaction.
Bah, c'est que sur les élections, je veux dire, on nous présente des candidats qui ont été choisis par certaines personnes et au final, moi je vote pas du tout. Notre vote il a pas vraiment été représenté. Enfin, je veux dire, on nous présente une liste d'électeurs, enfin une liste de personnes pour qui voter, qui ont été élus dans leur parti chacun parce que telle ou telle personne pensait que c'était la meilleure personne pour représenter ces idées-là. Mais c'est pas représentatif non plus, ça n'a rien à voir avec le Togo. Mais c'est du même ordre, quoi. Je veux dire, on peut pas voter pour qui on veut.
C'est du même ordre ?
Non, en fait,
on a un choix.
Oui, mais sauf que le principe est le même. Enfin, c'est pas exactement le même. Vous, c'est beaucoup plus radical, ça n'a rien à voir. Il y a une violation du droit de vote qui est immense, quoi. Mais sur le principe de respecter le droit de vote de chaque personne, non. Je veux dire, enfin, je sais pas. C'est bon.
Nous accompagnons dans la rue Kofi Niazozo, juriste, membre du collectif Nwebeke et membre de la coordination Togo Debout.
Important que vous également, Marie, puissiez contribuer justement à informer les uns les autres sur cette question-là, afin que les gouvernements ou les gouvernants, en tout cas en France, puissent se saisir utilement de la question, parce que quoi qu'il en soit, elle contribue par exemple à détériorer certaines relations. C'est ce qui fait qu'on assiste à des manifestations un peu partout, parce que la France n'arrive pas à parler d'une voix claire pour dire autant les choses se font ici et qu'on arrive en tout cas plus ou moins à choisir les gouvernants, autant cela doit se faire également de l'autre côté, afin que les uns et les autres puissent quelque peu expérimenter ce qu'on appelle la démocratie.
Si vous avez des questions sur le Togo, vous en profitez. Hein. Non. Vous savez où ça se trouve?
Oui, au moins.
Il y a un pays voisin, frontalier, qui commence par B, qui finit par N.
C'est horrible.
Il y a un E après le B.
Le Bénin.
Oui, le Bénin, ouais.
Désolé.
Le Bénin.
Et un autre qui est avec un G, un autre.
Ouais, il y a le Bénin, le Ghana et puis le Burkina au nord.
D'accord. Okay.
Puis à la mer au sud. Ouais.
C'est un tout petit pays. Hein.
Ouais, un pays de 56 600 km² avec environ 5 ou 6 millions d'habitants.
Et un de ses compatriotes qui a été maire d'une petite commune et secrétaire d'État après, enfin.
Oui, Kofi Nyanyam, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et j'ai un autre d'ailleurs qui est actuellement député en marche, M. Anato Patrice, à Paris. Donc voilà.
Vous comprenez que Marie Romane ne s'intéresse pas à notre constitution?
Oui, il faut se dire aussi que la France, par définition, reste quand même une nation extrêmement capitaliste. Ce qui fait que l'individualisme ou les individualités sont extrêmement accentuées. Mais à la faveur de la crise économique donc de 2008, il faut reconnaître que les uns et les autres ont commencé par s'intéresser à la politique intérieure. Mais la jeunesse encore moins. Et donc, je comprends, mais cela ne saurait s'entendre, parce qu'il faudrait arriver à réinstaurer, à mon sens, ou à renforcer en tout cas l'éducation civique à l'école, de sorte à ce que eh bien, nos jeunes frères puissent savoir ce dans quoi ils évoluent, ce que c'est qu'une constitution, parce que c'est très important de connaître ses droits et ses devoirs.
Bon, ben vous avez qu'à monter une antenne de votre association à Nantes.
Oui, c'est en cours, et nous allons pouvoir le faire de sorte à informer nos jeunes et qu'ils puissent donc voter, parce que le droit de vote existe, mais encore faudrait-il l'utiliser, parce que on a tendance à beaucoup se plaindre de nos gouvernants, mais nous oublions parfois que nous avons un outil essentiel pour pouvoir les ériger nous-mêmes ou les défaire nous-mêmes, qui reste donc le droit de vote. Donc nous pouvons, à Nantes, monter l'association et travailler de sorte à ce que, eh bien, pour les prochaines, en tout cas, échéances électorales, que la participation soit conséquente.
Merci à Kofi Nyazozo, juriste, membre du collectif Nwebeke et membre de la coordination Togo Debout, et merci à
Romane, Marie,
pour leur libre participation à ce programme réalisé avec la complicité de l'association Survie 44. Qu'est-ce que vous retenez de cette aventure d'interview en marchant dans la rue?
Je trouve qu'elle est efficiente et surtout ça change des différentes interviews que j'ai pu faire. Et du coup, ça permet d'être confronté à une certaine réalité. Par exemple, avec la rencontre entre Marie et Romane, de voir si, au fond, les messages ou les interviews qu'on donne, ça passe ou pas. Mais là, ça a le mérite de vulgariser un peu les modes d'interview ou d'instituer une nouvelle mode d'interview, en tout cas, qui pourrait permettre à mieux véhiculer l'information.
Merci. Allez, on va rentrer au show maintenant.
Ça marche.
C'est là.
Nous avons besoin d'une assistance, d'une aide de nos frères et sœurs donc français pour qu'ils puissent nous soutenir, qu'ils puissent contribuer à ce que l'écho du peuple togolais soit entendu dans les sphères françaises, notamment à l'Assemblée nationale, pour que les lois ou les accords donc, de défense qui lient le Togo, par exemple, le Cameroun, la Centrafrique, à la France, eh bien, soient dotés d'une forme de transparence, mais surtout qu'il y ait une clause donc, de conditionnalité démocratique, c'est-à-dire une clause ou une mention qui permette ou fasse en sorte que dès lors que les droits humains seront naturellement violés, eh bien, ces accords devront être suspendus. Donc c'est ce point essentiel sur lequel j'aimerais, en tout cas, que la population nantaise, en tout cas, nous accompagne afin qu'on puisse saisir nos députés et que ces deux points essentiels deviennent ou soient traduits en pratique. Nous devons faire en sorte, en tout cas, que ces discours ne soient pas en réalité de simples déclarations d'intention. Eh bien, donc, qu'ils soient traduits en actes et qu'on puisse donc contribuer à préserver des vies humaines, qu'on puisse donc contribuer à l'instauration d'une certaine forme de justice sociale. Parce qu'en réalité, il s'agit de ça. Il faut que nous arrivions à ce que les gens ne meurent pas pour le simple bénéfice de celles et ceux qui cherchent à garder un pouvoir. Donc nous pouvons réaliser des économies en perte de vies humaines.
Les dictateurs peuvent se retrouver devant une juridiction internationale, mais ce n'est pas ça qui va les démotiver.
Oui, à l'évidence. C'est-à-dire qu'avant, il faut voir aussi le temps d'instruction des procédures devant la juridiction internationale. C'est voilà pourquoi il faut renforcer également les juridictions régionales. Parce que quand ils se disent qu'ils seront peut-être en bastion à l'international, ils savent que le temps jouera en leur faveur. En revanche, si nous arrivons à outiller les juridictions régionales, eh bien, ça permet déjà d'exercer une forme de pression qui contribuerait indirectement ou directement à préserver certains massacres ou génocides auxquels on fait face en Afrique. Par exemple, puisque nous savons qu'il y a l'Afrique du Nord, il y a l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest, il faut arriver à renforcer les institutions régionales, éviter justement que cette autocratie qui devient mode de gouvernance dans certains pays, eh bien, commence par perdre pied au profit d'une meilleure gouvernance, donc d'une démocratie solide.